C'est bon d'être avec vous aujourd'hui. J'adore BYU. C'est là où j'ai étudié, où j'ai rencontré ma merveilleuse épouse et où nos 6 enfants ont été scolarisés. Le titre de mon discours aujourd'hui est « Le livre de Mormon, fabriqué par l'homme ou donné par Dieu ». Parce que le livre de Mormon est la clé de voûte de notre religion, comme le décrit Joseph Smith. L'Église tient ou s'effondre sur cette vérité. En conséquence, s'il peut être prouvé que le livre de Mormon a été créé par l'homme, alors l'Église est créée par l'homme. D'un autre côté, si son origine est divine, alors Joseph Smith était un prophète. Et s'il était un prophète, alors l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est vraie. C'est aussi simple que cela. Une fois que nous avons un témoignage fondamental du livre de Mormon, alors toute question ou défi auquel nous sommes confrontés dans la vie, aussi difficile que cela puisse paraître, peut être abordé avec foi et sans doute. Pourquoi ? Parce que la clé de voûte de notre religion, le livre de Mormon, et son témoignage de Jésus-Christ est également devenu la clé de voûte de notre témoignage, clé de voûte qui maintient notre témoignage solidement en place. Ainsi, le livre de Mormon est devenu l'objet principal d'attaque de beaucoup de nos critiques. Réfutez le livre de Mormon et vous réfutez l'Église et sapez les témoignages. Mais ce n'est pas une tâche facile. En fait, c'est impossible, car le livre de Mormon est vrai. 11 témoins, en plus de Joseph Smith, ont vu les plaques d'or. Des millions de croyants ont témoigné de sa véracité et le livre est facilement accessible pour être examiné. Les critiques doivent soit rejeter le livre de Mormon d'un air penaud, soit proposer une alternative viable au récit de Joseph Smith, à savoir qu'il l'a traduit par le don et le pouvoir de Dieu. Quels sont alors ces arguments alternatifs présentés par nos critiques pour l'origine du livre de Mormon et quelle est la vérité? Argument numéro 1. Joseph Smith, considéré comme un homme ignorant, a écrit le livre de Mormon. En 1831, un pasteur nommé Alexander Campbell proposa que Joseph Smith avait écrit, plutôt que traduit, le livre de Mormon. Il n'y a jamais eu de livre plus manifestement écrit par une seule main, ni plus certainement conçu dans un seul crâne, que ce livre. Je ne peux pas douter un seul instant que Joseph Smith en soit l'unique auteur et propriétaire. Campbell a également déclaré que Joseph était une canaille aussi ignorante et aussi impudente qui ait jamais écrit un livre. Mais cette affirmation selon laquelle Joseph Smith, qui était ignorant et manquait d'éducation, pouvait écrire un ouvrage tel que le livre de Mormon a semblé si absurde aux autres critiques contemporains qu'ils l'ont facilement rejeté. Même Campbell lui-même, qui a proposé cette théorie, l'a ensuite abandonnée en faveur d'une autre alternative. Ainsi, les premières théories sur l'origine du livre de Mormon ont commencé à se concentrer sur l'hypothèse que Joseph Smith, un homme ignorant, était tout simplement incapable d'écrire un livre aussi complexe. Après tout, il n'avait que 23 ans. Il était un simple laboureur de l'ouest de New York et il avait peu d'éducation formelle. Par conséquent, les premiers critiques ont conclu qu'il devait y avoir une autre explication à l'origine du livre de Mormon que la possibilité improbable que Joseph l'ait écrit. Argument numéro 2. Quelqu'un d'autre l'a écrit. En conséquence, certains critiques ont proposé la théorie selon laquelle Joseph Smith aurait conspiré avec quelqu'un qui avait l'éducation, l'intelligence et les compétences nécessaires pour écrire le Livre de Mormon. Oliver Cowdery était l'un des candidats à sa paternité. Après tout, il était maître d'école, scribe et plus tard avocat. Mais un problème considérable s'est posé aux critiques. Oliver n'a jamais prétendu avoir écrit une quelconque partie du livre. En fait, il a témoigné du contraire. « J'ai écrit, avec ma propre plume, tout le Livre de Mormon, à l'exception de quelques pages, tel qu'il sortait des lèvres du prophète Joseph Smith, alors qu'il le traduisait par le don et le pouvoir de Dieu. » Ce livre est vrai. Même si Oliver a été excommunié de l'Église et qu'il a fallu quelques années avant qu'il revienne, il est toujours resté fidèle à son témoignage, même sur son lit de mort. En conséquence, cet argument est peu accepté aujourd'hui. Sidney Rigdon était un autre candidat à la paternité du Livre de Mormon. Il était un pasteur et théologien protestant. Cependant, l'ironie suprême de cet argument est qu'il a été converti par le livre même qu'il était censé avoir écrit. Parley Pratt, un ancien membre de la congrégation de Rigdon, lui a présenté le Livre de Mormon en octobre 1830, environ 6 mois après la publication du Livre de Mormon. Avons-nous des témoins que c'est ainsi que Sidney Rigdon a été converti? Oui. En fait, les preuves historiques sont convaincantes. Premièrement, la fille de Sidney Rigdon, Nancy Rigdon Ellis, avait 8 ans quand Parley Pratt et Oliver Cowdery ont offert un exemplaire du Livre de Mormon à son père dans leur foyer. Elle a dit qu'elle se souvenait de cet événement à cause du problème qui a surgi. « Je les ai vus donner en main propre le livre à mon père et je suis aussi sûr que possible qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. » Il l'a lu et l'a examiné pendant environ 1 heure, puis l'a jeté et a déclaré qu'il n'en croyait pas un mot. Cependant, plus tard, il a accepté le Livre de Mormon, s'est joint à l'Église et est devenu l'un de ses dirigeants. Deuxièmement, John, le fils de Sidney Rigdon, a parlé à son père sur son lit de mort. « Père, vous avez un devoir envers moi et envers votre famille de dire la vérité à propos du Livre de Mormon. » En d'autres termes, c'est le jour du jugement. Soyez totalement honnête avant de vous présenter à la barre de jugement. Le fils a ensuite rapporté la réponse de son père. « Mon père m'a regardé un instant, a levé la main au-dessus de sa tête et a dit lentement, avec les larmes aux yeux, « Mon fils, je peux jurer devant le Très-Haut que ce que je t'ai dit sur l'origine de ce livre est vrai. » Après ce doux moment, le fils a dit, « Je l'ai cru. » Plus tard, John s'est joint à l'Église, et ainsi un autre argument a été écarté. Argument numéro 3. Le Livre de Mormon a été plagié à partir d'autres livres. D'autres critiques ont proposé une ligne d'attaque différente, à savoir que Joseph Smith a plagié le Livre de Mormon, au moins son contenu historique, à partir de livres existants. L'une de ces théories affirmait que Joseph Smith avait copié le manuscrit de Solomon Spaulding, un manuscrit non publié, écrit vers 1812 par un homme nommé Solomon Spaulding, qui avait été un pasteur protestant. Il s'agit d'un récit fictif d'anciens Romains qui naviguaient vers l'Angleterre, mais qui ont dévié de leur route et ont atterri en Amérique du Nord. Lorsque nous avons demandé aux critiques de produire le manuscrit pour le comparer avec le Livre de Mormon, ils ont opportunément affirmé qu'il était perdu. Cependant, avec le temps, le manuscrit a été retrouvé en 1884 par un certain M. Rice. Il a trouvé la preuve irréfutable dans les documents historiques personnels de l'un des critiques qui avait affirmé que le manuscrit avait été perdu. connaissant son prétendu lien avec le Livre de Mormon, M. Rice, M. James Fairchild et d'autres, dont aucun n'était membre de l'Église Sainte des derniers jours, l'ont examiné et ont conclu « Nous l'avons comparé au Livre de Mormon et n'a pu déceler aucune ressemblance entre les deux, en général ou en détail. » Quand j'étais dans ma vingtaine, j'ai vu un avis du département d'histoire de l'Église indiquant qu'une copie du manuscrit de Solomon Spaulding pouvait être achetée pour $1. J'en ai commandé un exemplaire et n'ai également trouvé aucune relation significative entre les deux livres. Avec la fin de cet argument, les critiques ont affirmé que la source supposée du Livre de Mormon était un autre livre intitulé « View of the Hebrews », écrit par Ethan Smith en 1823. Ce livre était une tentative de prouver que les Amérindiens étaient les descendants des 10 tribus perdues d'Israël. En substance, les critiques affirmaient que c'était la base historique du Livre de Mormon. Il existe un test simple pour déterminer si le Livre de Mormon a été copié à partir de View of the Hebrews. Comparez simplement les deux livres et décidez par vous-même. En toute honnêteté académique, Brigham Roberts, l'un des principaux érudits de l'Église, a énuméré quelques parallèles possibles entre les deux livres, mais il est ensuite parvenu à la conclusion suivante. Je considère que notre foi est non seulement inébranlable, mais inébranlable dans le Livre de Mormon, et nous pouvons donc examiner sans crainte tout ce qui peut être dit contre lui. Peu avant sa mort, Roberts a déclaré en outre « Ethan Smith n'a joué aucun rôle dans la création du Livre de Mormon. J'ai lu « View of the Hebrews » et le Livre de Mormon. Il suffit de dire que ces deux livres ont des objectifs et des styles d'écriture totalement différents. Par exemple, l'objectif principal du Livre de Mormon est de témoigner de Jésus-Christ et de sa doctrine. En conséquence, ce n'est pas le contexte historique qui est au centre de l'attention, mais plutôt la musique de fond qui donne un contexte et met l'accent sur la doctrine. Cependant, l'objectif principal de View of the Hebrews est de relier historiquement les Amérindiens aux Hébreux de l'Antiquité. De plus, View of the Hebrews est une série de citations indépendantes et de prétendues preuves pour prouver sa théorie. D'un autre côté, le Livre de Mormon est un récit cohérent, une histoire de famille et de prophètes qui ont lutté pour vivre la parole de Dieu. Le but et le style de ces deux livres sont très différents. Tout lecteur honnête peut le déterminer par lui-même. Argument numéro 4. Joseph souffrait d'une maladie mentale. Ceux qui ont avancé cet argument ont prétendu que de tels troubles mentaux ont conféré à Joseph Smith des pouvoirs et des compétences supplémentaires qui lui ont permis d'écrire ce qu'il n'aurait pas pu écrire par lui-même. En 1931, Harry Beardsley a écrit « Le Livre de Mormon est le produit d'un esprit caractérisé par les symptômes de la maladie mentale la plus répandue chez les adolescents, la démence précoce, parfois appelée schizophrénie. Il y a cependant des défauts imparables à un tel argument. Premièrement, il n'existe aucune preuve crédible que Joseph souffrait d'une quelconque forme de maladie mentale. Deuxièmement, il n'existe aucune preuve que de telles conditions physiques ou mentales confèrent magiquement à un écrivain non formé, tel que Joseph Smith, la capacité de devenir instantanément un écrivain compétent. Et troisièmement, le livre n'est pas caractéristique des malades mentaux. Même Fawne Brody, une fervente critique de Joseph Smith, a reconnu ce dernier fait. Les critiques récentes, qui insistent sur le fait que Joseph Smith souffrait d'hallucinations, ont ignoré dans le livre de Mormon les preuves contraires difficiles à ignorer. Sa cohérence même dément leurs affirmations. Sa structure présente une conception élaborée, son récit est structuré de manière cohérente et il démontre une unité d'objectif. Comme on pouvait s'y attendre, ces arguments selon lesquels Joseph Smith souffrait d'une maladie mentale n'ont jamais eu beaucoup de succès. Argument numéro 5. Joseph Smith était un génie créatif qui, façonné par son environnement, a écrit le livre de Mormon. C'est devenu l'un des principaux arguments utilisés aujourd'hui par de nombreux, sinon la plupart des critiques. Il s'agit d'un virage à 180 degrés par rapport aux prémices des critiques précédentes, à savoir que Joseph était illettré, ignorant et incapable d'écrire un tel ouvrage par lui-même. En fait, nous avons bouclé la boucle, revenant au même argument avancé à l'origine par Alexander Campbell en 1831, sauf que maintenant, Joseph Smith est considéré comme brillant plutôt qu'ignorant. Fawn Brody, peut-être la principale partisane de cet argument, était d'avis que Joseph Smith, le garçon de ferme non scolarisé, était un génie créatif qui, façonné par son environnement et l'influence des livres et des ressources d'histoire locale, a personnellement écrit le livre de Mormon. Remarquablement, Fawn Brody a écrit « N'ayant jamais écrit une seule ligne de fiction, Joseph Smith s'est fixé une tâche qui aurait fait réfléchir le romancier le plus expérimenté. Mais c'est peut-être à cause de cette inexpérience qu'il s'est plongé dans l'histoire. Quand on réfléchit à cette affirmation, elle est tout simplement ahurissante. Était-ce cette même inexpérience qui l'avait aidé à créer des centaines de noms, à les intégrer dans l'ensemble d'événements le plus complexe, puis à les relier ensemble dans une histoire harmonieuse, resplendissante, de profondes idées doctrinales? En reconnaissant l'inexpérience de Joseph, elle a amplifié l'improbabilité que Joseph ait écrit seul cette œuvre monumentale. Néanmoins, d'autres ont adhéré à cet argument sans réserve. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont nulle part où aller, sinon d'admettre que Joseph a traduit le livre de Mormon par le don et le pouvoir de Dieu, un endroit où ils ne veulent désespérément pas aller. Ces derniers critiques ont ajouté un ingrédient supplémentaire au mélange. Joseph Smith, disait-il, en plus d'être un génie, souffrait d'un trouble de la personnalité narcissique ou d'un trouble dissociatif ou d'une dépression. Nous voici de retour aux théories sur les troubles mentaux qui se sont révélées si inefficaces dans le passé. Afin d'expliquer l'histoire du livre de Mormon, ces critiques affirment que Joseph doit avoir lu ou été au courant d'un nombre impressionnant de livres ou d'idées qui s'y rapportent. En fait, un auteur a suggéré que Joseph aurait pu lire ou glaner des informations dans plus de 30 livres dans les bibliothèques voisines afin de rassembler les informations nécessaires sur les premiers Américains. On prétend ensuite que ces livres ou les discussions à ce sujet dans des journaux ou des conversations sont devenus la base du récit historique du livre de Mormon. Comment contrer cet argument ? Voici une liste de questions qu'un honnête chercheur de vérité pourrait poser. Y a-t-il une seule référence ? Une seule. Dans les journaux ou dans la correspondance écrite de Joseph, suggérant qu'il aurait pu lire ou avoir eu des conversations concernant l'une de ses sources historiques avant de traduire le livre de Mormon ? Non. Existe-t-il des preuves qu'il s'est rendu dans les bibliothèques où ses livres étaient censés se trouver ? Non. Emma Smith, qui était son épouse, a-t-elle jamais dit qu'il faisait référence à l'un de ses livres avant que le livre de Mormon ne soit traduit? Non. Existe-t-il une trace écrite indiquant qu'il avait l'un de ses livres à ses côtés lorsqu'il a traduit le livre de Mormon? Non. Combien de non faut-il pour dénoncer les arguments des critiques comme de la pure spéculation? Rien de plus que des châteaux de sable qui s'effondrent lorsque les premières vagues de questions honnêtes apparaissent sur la scène. Les critiques cherchent-ils à nous faire croire que Joseph a recherché et étudié toutes ses ressources sur la vie des Amérindiens, s'est inspiré des conversations connexes sur le sujet, éliminé ce qui n'était pas pertinent, organisé le reste en une histoire complexe impliquant des centaines de personnages, de nombreux lieux et des stratégies de guerre détaillées, puis il l'a dicté avec une parfaite mémoire, sans la moindre note. Pas de plan, pas de carte de mémorisation, rien. Un fait reconnu même parmi les critiques. Et pendant tout ce temps, personne ne se souvenait de lui allant dans ses bibliothèques, apportant de tels livres à la maison, participant à des conversations concernant cette recherche ou les écrivant dans son journal. Je vous le demande. Où sont les preuves concrètes? Même si Joseph avait obtenu des faits historiques de bibliothèques locales ou de conversations dans la communauté, pour lesquelles il n'existe aucune preuve substantielle, la vraie question demeure. Où a-t-il obtenu la doctrine profonde et complète enseignée dans le livre de Mormon, dont une grande partie est contraire aux croyances religieuses de son époque? Par exemple, le christianisme contemporain enseignait que la chute était un pas en avant négatif et non positif, au contraire de ce qu'enseigne le livre de Mormon. De même, contrairement aux croyances contemporaines, le livre de Mormon fait référence à une existence prémortelle dans Alma 13 et à un monde spirituel post-mortel dans Alma 40. D'où Joseph Smith a-t-il obtenu ces profondes vérités doctrinales qui étaient en fait contraires aux enseignements doctrinaux dominants de son époque? Où a-t-il trouvé le sermon extraordinaire sur la foi dans Alma 32? Ou l'un des plus grands sermons jamais enregistrés dans toutes les Écritures sur l'expiation du Sauveur prononcé par le roi Benjamin, ou l'allégorie de l'Olivier dans toute sa complexité et sa richesse doctrinale? Quand je lis cette allégorie, je dois la cartographier pour en suivre les subtilités. Sommes-nous censés croire que Joseph Smith a simplement dicté ses sermons de tête sans aucune note? Les vérités doctrinales enseignées dans le livre de Mormon sont une preuve irréfutable de son authenticité divine. Néphi a prophétisé qu'à notre époque, un très grand nombre de personnes trébucheraient en cherchant la vérité. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses claires et précieuses ont été ôtées de la Bible. Voici seulement deux exemples de vérités doctrinales claires et précieuses qui ont été clarifiées ou rétablies dans le livre de Mormon. Premièrement, le baptême. Une grande partie du monde chrétien se demande si, oui ou non, le baptême est essentiel au salut. Il trébuche sur ce problème. Permettez-moi de lire juste un des nombreux passages du livre de Mormon sur ce sujet. Dieu commande à tous les hommes de se repentir et d'être baptisés en son nom, sinon ils ne peuvent être sauvés dans le royaume de Dieu. Devrait-il y avoir un débat sur la nécessité du baptême après cette écriture? Le livre de Mormon expose clairement ce qui reste obscur pour une grande partie du monde chrétien. La majorité du monde chrétien considère l'aspersion et le versement comme des modes légitimes de baptême. Le Sauveur lui-même a abordé cette question dans le livre de Mormon. Alors, vous les immergerez dans l'eau et ressortirez de l'eau. ce qui est ambigu pour beaucoup est parfaitement clair dans le Livre de Mormon. Faut-il être baptisé par autorité ou la sincérité suffit-elle? Faisons-nous des alliances au moment du baptême? Et, si oui, quelles sont ces alliances? Les petits-enfants doivent-ils être baptisés? Encore et encore, le Livre de Mormon vient à la rescousse, donnant des réponses et rétablissant de nombreuses vérités claires et précieuses sur le baptême qui ont été déformées ou perdues pendant l'apostasie. Comment Joseph Smith a-t-il connu toutes ces réponses alors que le reste du monde chrétien était si confus? Parce qu'il les a reçues par révélation de Dieu alors qu'il traduisait le Livre de Mormon. Deuxièmement, qu'en est-il de l'expiation du Christ, la doctrine centrale de tout le christianisme? La clarté et l'étendue de cette doctrine telle qu'elle est enseignée dans le Livre de Mormon ne peuvent être honnêtement contestées. Quelques joyaux doctrinaux sur l'expiation, que nous apprécions grandement et dont nous bénéficions, sont éparpillés dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais le Livre de Mormon contient de nombreux sermons, des chefs-d'œuvre entiers, sur le sujet. Par exemple, De Néphi 2 est un sermon époustouflant sur la relation entre la chute et l'expiation du Christ. Alors que le reste du monde chrétien croit que la chute a été un pas en arrière dans le progrès de l'homme, Léhi nous a enseigné la vérité, que la chute, associée à l'expiation, constitue un pas de géant en avant. 2 Néphi 9.7 présente pour la première fois l'expression « une expiation infinie », révélant l'étendue, la portée et la profondeur du pouvoir salvateur du Christ. Mosia 2-5 est le sermon du roi Benjamin. Il donne un aperçu de la profondeur des souffrances du Christ, de la nature rétroactive et prospective de l'expiation du Christ et du pouvoir de l'expiation d'ôter notre culpabilité ainsi que nos péchés. Alma 7 explique que le Sauveur a souffert non seulement pour nos péchés, mais aussi pour nos souffrances et nos afflictions, et des tentations de toute espèce. 3 Néphi 11 est le témoignage le plus puissant que nous avons du Seigneur ressuscité, alors que 2500 croyants, composés d'hommes, de femmes et d'enfants, se sont avancés et ont mis leurs mains dans son côté, ont touché la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds, et ont connu avec certitude et ont témoigné qu'il était le Fils de Dieu. Qui peut lire ce récit sans ressentir le témoignage de l'Esprit témoignant de sa véracité? La Bible nous enseigne que, grâce à l'expiation, le Christ peut nous purifier. Le 10e chapitre de Moroni nous enseigne que, grâce à l'expiation, le Christ peut aussi nous rendre parfaits. Quelqu'un croit-il honnêtement que Joseph Smith a, d'une manière ou d'une autre, inventé ces doctrines profondes, avec leur pouvoir convaincant de raison, leurs idées qui éclairent l'esprit et leur langage divinement éloquent? Si ces doctrines étaient le produit de l'esprit créatif de Joseph, on pourrait se demander, n'y avait-il pas d'autres génies créateurs dans les 1800 ans qui ont suivi le ministère du Christ qui pourraient créer des doctrines similaires? L'argument selon lequel Joseph Smith a écrit le Livre de Mormon est tout simplement contraire aux réalités de la vie. C'est une chose d'avoir des idées créatives, c'en est une autre de les regrouper en un tout complexe mais cohérent et harmonieux, inondé de majestueuses vérités doctrinales et le tout réalisé dans une seule ébauche en moins de 90 jours. L'épouse de Joseph Smith, Emma, celle qui le connaissait mieux que quiconque, a confirmé cette conclusion. Joseph Smith, en tant que jeune homme, ne pouvait ni écrire, ni dicter une lettre cohérente et bien formulée, encore moins dicter un livre, comme le Livre de Mormon. En réponse aux arguments des critiques quant à l'origine du Livre de Mormon, Hugh Niblet a publié la parabole suivante. Il y a longtemps, un jeune homme a déclaré avoir trouvé un gros diamant dans son champ alors qu'il labourait. Il a exposé gratuitement la pierre au public et tout le monde a pris parti. Un psychologue a montré, en citant quelques études de cas célèbres, que le jeune homme souffrait d'une forme bien connue de délire. Un historien a montré que d'autres hommes ont également affirmé avoir trouvé des diamants dans des champs et avoir été trompés. Un géologue a prouvé qu'il n'y avait pas de diamants dans la région, mais seulement du quartz. Lorsqu'on lui a demandé d'inspecter la pierre elle-même, le géologue a refusé avec un sourire lasse et tolérant et un gentil hochement de tête. Un sociologue a montré que seuls 3 fleuristes sur 177 dans 4 grandes villes croyaient que la pierre était authentique. Un ecclésiastique a écrit un livre pour montrer que ce n'était pas le jeune homme, mais quelqu'un d'autre qui avait trouvé la pierre. Enfin, un bijoutier indigent a suggéré que, puisque la pierre était toujours disponible pour être examinée, la réponse à la question de savoir s'il s'agissait ou non d'un diamant n'avait absolument rien à voir avec qui l'avait trouvé, ou si celui qui l'avait trouvé était honnête ou saint d'esprit, ou qu'il avait cru, ou s'il distinguerait un diamant d'une brique, mais il fallait y répondre simplement et uniquement en soumettant la pierre à certains tests bien connus pour les diamants. Des experts en diamants ont été appelés. Certains d'entre eux ont déclaré que le diamant était authentique. Les autres en ont fait des blagues douteuses et ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas très bien mettre en danger leur dignité et leur réputation en donnant l'impression de prendre la chose trop au sérieux. Pour cacher la mauvaise impression ainsi générée, quelqu'un a émis l'hypothèse que la pierre était en réalité un diamant synthétique, très habilement réalisé, mais tout de même un faux. L'objection à cela est que la production d'un bon diamant synthétique à cette époque aurait été un exploit encore plus remarquable que la découverte d'un vrai diamant. Suggérer que Joseph Smith, un garçon de ferme peu instruit, a produit en 1829 une œuvre de Dieu synthétique qui a déconcerté les critiques les plus brillants pendant près de 2 siècles, serait un exploit plus remarquable que le simple fait qu'il a obtenu les plaques d'or d'un ange de Dieu et les a traduites par le don et le pouvoir de Dieu. De quelle autre preuve disposons-nous que le Livre de Mormon était une traduction donnée par Dieu et non d'origine humaine? Il existe de nombreuses preuves, mais pour gagner du temps, je n'en cite qu'une seule, car elle m'est personnelle. Emma Smith a donné le témoignage suivant, rapporté par son fils, Joseph Smith III. Ce que je crois, c'est que le Livre de Mormon a une authenticité divine. Je n'ai pas le moindre doute à ce sujet. Je suis certaine que personne n'aurait pu dicter la rédaction des manuscrits sans être inspiré. En effet, lorsque je lui servais de secrétaire, Joseph me dictait heure après heure. Et lorsqu'il retournait au travail après les repas ou après des interruptions, il recommençait aussitôt à l'endroit où il s'était arrêté, sans voir le manuscrit ni s'en faire lire des parties. C'était chose courante pour lui. Il est peu probable que quelqu'un d'instruit parvienne à faire cela. Aussi, pour quelqu'un d'aussi ignorant et d'aussi peu instruit que lui, c'était tout simplement impossible. Cela peut paraître insignifiant à certains, mais pour moi, c'est stupéfiant. Pendant 34 ans, en tant qu'avocat, je dictais régulièrement à ma secrétaire. Ce faisant, j'étais souvent interrompu par un appel téléphonique ou une question. Après de telles interruptions, je demandais invariablement à ma secrétaire « Où en étais-je ?» Mais Joseph ne dictait ni n'écrivait un nouvel ouvrage. Il recevait la révélation par la puissance de Dieu et n'avait donc pas besoin de demander « Où en étais-je ?» En fin de compte, l'explication de Joseph Smith sur la parution du livre de Mormon est la seule option viable sur la table. Pourquoi ? Parce que c'est aussi vrai que la vérité vraie. Si je devais demander à mes bons amis chrétiens comment ils savent incontestablement que la Bible est la parole de Dieu, je ne crois pas qu'ils citeraient comme preuve principale les découvertes archéologiques ou les liens linguistiques avec l'hébreu ou le grec antique. Ils feraient plutôt référence à l'esprit. On en revient toujours à l'esprit. L'esprit qui m'aide à savoir que la Bible est vraie est le même esprit qui m'aide à savoir que le livre de Mormon est vrai. L'esprit est le facteur décisif et déterminant, pas l'archéologie, ni la linguistique, ni l'ADN, et certainement pas les théories humaines. L'esprit est le seul témoin sûr, certain et infaillible. Quand j'avais 15 ou 16 ans, je lisais l'histoire des 2000 fils des Lamans. J'étais émerveillé par leur courage et par la main protectrice du Seigneur. Puis, une voix m'est venue à l'esprit. Cette histoire est vraie. Depuis, j'ai reçu d'autres confirmations. Pourquoi est-il si important pour vous, individuellement, d'acquérir un témoignage du Livre de Mormon ? Parce que si vous le faites, il deviendra votre barre de fer personnelle. La brume des ténèbres peut surgir, et des questions sans réponse peuvent surgir. Mais, à travers tout cela, vous aurez votre barre de fer à laquelle vous accrochez, pour vous maintenir sur le sentier droit et étroit qui mène à la vie éternelle. Le Seigneur a promis que si nous prions d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il nous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Si nous voulons vraiment connaître la vérité, si nous sommes prêts à payer ce prix et à poursuivre sans relâche cette quête, la réponse finira par venir. Par ce pouvoir promis du Saint-Esprit, je témoigne personnellement que le Livre de Mormon est un don de Dieu et qu'il est tout ce qu'il prétend être. Un témoignage pur et puissant de Jésus-Christ, de sa divinité et de sa doctrine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.